rester dans les têtes.
Bah, c'est quelque chose qu'on a essayé de développer, parce que alors le fuzz est devenu un terme issu du garage, du rock psychédélique, qui est quand même très moderne maintenant, donc c'est vraiment l'esthétique sonore qui nous est propre. Mais le côté travail des voix vocales, c'est quelque chose qu'on aime tous les trois. On est tous les trois fans des Beatles, et c'est vrai que le côté faire des harmonies dès qu'on a la possibilité d'en faire, bah, c'est quelque chose qui nous parle franchement, parce qu'au-delà d'être musicien, on est tous chanteurs par défaut, et on a tous démarré par un instrument et on a chanté par la force des choses, et on s'est dit bah, pourquoi pas mettre ça à notre avantage et dans le groupe, et au final bah, ça nous a amené à construire et à composer beaucoup autour de ça finalement quoi.
Sur les compositions, alors comment ça marche? Est-ce que on a souvent une composition, ouais, merci, un schéma, c'est exactement ça le mot que je cherchais en plus, un schéma autour d'un riff qui arrive, derrière tout le monde arrange, et puis il y a un texte qui vient poser dessus. Là c'est pas forcément le cas, vu que les textes sont posés par tout le monde.
C'est complètement un riff qui est écrit souvent. Des fois il y a une vague mélodie de chant, des fois il y en a pas. Il y a rarement du texte qui est écrit en premier, ça peut arriver. Et tout se base autour d'un riff qu'on va essayer de développer, qui va être un peu la matière centrale du morceau, qui va des fois être le refrain, des fois être pas le refrain, et on construit autour, et on construit. Enfin, c'est souvent un ou deux, Tom ou moi, qui arrivons avec des idées, et puis on construit, on met
c'est
des briques.
C'est ça quoi, ça tourne autour du riff, et puis au bout d'un moment on fige, ou il y a quand même une intention un peu plus directive. Là, il y a Thomas qui...
C'est plus ou moins ça l'idée, mais je dirais qu'on a essayé de se détacher un petit peu de ça, en fait, sur le dernier album, et... Avec la maturité, ça fait con de dire ça, mais on essaye de se détacher de l'écriture pure et simple en fait de riff, même si ça vient souvent de là. Il y a une idée qui germe et qui est cool, et voilà. Mais notamment dans le rock, on a la fâcheuse tendance et la facilité à empiler en fait une quantité de riff et à se dire ça fait un morceau, c'est cool. Sur cet album, on a essayé justement pas faire ça. On a écrit un scénario de film en fait, qui sert de lore en fait pour écrire et raconter ce qu'on avait envie de dire sur les choses sur lesquelles on a envie de prendre position, sans pour être autant des punks, hein, parce que c'est un caractère qui ne ressemble pas. Mais on a écrit tout un scénario en fait, et tout ça à chaque fois, ça nous a donné une structure, enfin un guide pour chacune des chansons, parce que chaque chanson c'est comme un acte en fait d'un film. Sur le dernier album.
Ouais. Tu parles du dernier album, c'est le deuxième, hein, c'est
ouais,
ça.
Le deuxième album, justement,
qui ressemble à une écriture, ouais, cinématographique en fait. C'est vraiment ça l'idée.
On a essayé. Ouais, on est quand même très fan de rock progressif, et donc d'un album qui s'écoute du début à la fin. Et comme on a des choses à dire, mais qu'on n'a pas envie de faire la gueule ou de crier notre colère, on s'est dit bah pourquoi pas raconter une histoire, et c'est exactement ce qu'on a fait.
De manière allégorique finalement. Voilà,
oh, le mot que t'as sorti.
J'allais te dire allégorie.
Voilà. Ça fait un moment que tu le prépares celui-là.
Ouais, mais il était juste.
Il était très à propos.
Voilà, très à propos. Et, je vais te prendre comme auteur, hein, parce que à chaque fois c'est pile poil ce que je voulais dire. Voilà, très à propos, exactement. Bien utilisé. Alors cette histoire qui se raconte, parce qu'elle se raconte avec les instruments, elle se raconte avec les voix, elle se raconte avec les harmonies, elle se raconte pas qu'avec le texte, bien entendu. Dans quel univers, pour vous, elle évolue? Parce que l'avant c'est que sur une histoire musicale, c'est qu'on peut chacun se l'écrire. Mais pour vous, dans quel univers elle se raconte cette histoire du deuxième album?
Voilà, il n'y a pas trop de place pour l'interprétation. Bon, c'est quand même très ancré sur ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que ça n'a jamais été plus vrai que avec tout le bordel qu'il y a dans le détroit d'Hormuz et la crise énergétique et les canicules qu'on prend dans la tête. Voilà. Donc c'est quand même, ça parle de ça globalement, mais c'est une histoire de science-fiction. Déjà parce qu'on est tous les trois nés dans les années 90 et on a grandi avec Jurassic Park, dont on est tous les trois très fans, d'où les lézards, les dragons et les dinosaures qu'on a sur notre imagerie. Mais c'est une histoire de science-fiction, c'est l'histoire de quelqu'un qui est au milieu d'un bordel pas possible. Tout le monde pense qu'à soi en fait, c'est la course pour l'énergie. Et elle essaye juste de survivre en fait dans ce dans ce monde en proie au chaos et de trouver sa route. Et l'avidité humaine fait que il se passe une chose un petit peu. Moi, je compare ça à Mars Attack parce que c'est tellement improbable. Mais en gros, un geyser explose, hein, et puis tout le monde se transforme en reptile, quoi. Et les reptiles révèlent les instincts en fait négatifs des gens et essayent de manger les copains. Et elle est au milieu de ce bordel-là et elle essaye de trouver sa place et de trouver un sanctuaire et de trouver encore une raison de vivre et de continuer au milieu de tout ça, quoi. Donc c'est vraiment une histoire de science-fiction un peu grotesque presque, mais qui au final est très très ancrée dans ce qui se passe aujourd'hui, quoi.
T'évoquais Mars Attack, à l'image de Mars Attack en fait, qui est une belle farce, mais pas seulement. Mais pas seulement en fait, une farce. C'est justement le génie de la farce qui va un peu plus loin juste de la farce. Quand on a autant de choses à raconter, et quand on est aussi précis dans le contenu finalement de ce qu'on a envie de dire, malgré l'ambiance musicale, malgré tout ça. Voilà, à travers l'album, raconter une histoire complète. Il y a une forme de militantisme quand même là-dedans, non?
Militantisme écologique à 100%.
Ouais, c'est ça. C'est pas uniquement du texte et de l'histoire, quoi. Il y a un militantisme écologique. Est-ce que ça va au-delà du propos de l'album ou du propos sur scène? Est-ce qu'il y a, je sais pas, des choix
du groupe
ou autre qui vont dans un sens ou dans un autre? Des engagements associatifs locaux, hein, par exemple. Que sais-je? En tout cas, voilà. Est-ce qu'on retrouve, je sais pas, quelque chose qui va au-delà?
Alors malheureusement non, parce qu'on a ni le temps ni l'énergie. Et par définition, l'art est politique. La musique est politique. On se doit de prendre position, c'est comme ça. Et nous, on le fait à notre façon. Donc on n'est pas présent dans des associations, dans du militantisme pur et dur.
Ça peut être aussi, par exemple, le choix d'où on va jouer. Hein. Ça peut être dans tout un tas d'éléments.
Oui, bien sûr. Alors, malheureusement, on n'a pas encore le luxe de choisir les endroits où on va jouer parce qu'on n'est pas encore, on n'a pas suffisamment la notoriété pour. Mais c'est sûr que si demain, je dis n'importe quoi, mais si demain il y a un militant du Rassemblement National qui nous dit venez jouer chez nous, on va peut-être dire non, voilà. Bon, après ça c'est du bon sens, c'est pas du militantisme, mais malgré ça, voilà, on n'a pas encore l'énergie ni le temps de s'investir dans les bonnes causes qui nous semblent justes, donc on l'exprime par notre musique, par une histoire, et en espérant que ça touche le plus de monde possible.
Moi je dirais que c'est quand même déjà une forme d'investissement.
C'est déjà une première forme d'investissement, alors totalement, hein, c'est
notre façon de faire, et c'est comme ça qu'on nous, en tout cas personnellement, c'est comme ça qu'on l'exprime le mieux, quoi.
C'est plein de choses aussi. On est parti en Angleterre, en Espagne, Portugal. On fait des tournées des fois un peu loin. On essaye au maximum avec les gens avec qui on travaille d'avoir des routings qui soient pas trop débiles, de faire attention à pas venir avec 3 semi-remorques sur un festival juste pour mettre de la déco. Tu vois, c'est un ensemble de petites choses comme ça à notre niveau qu'on essaye de faire. Maintenant, comme disait Rémi, forcément on n'a pas les moyens des grands, donc des fois on est obligé de faire avec les moyens et d'accepter des choses qu'on aurait fait différemment, tu vois.
Le simple fait d'avoir une attention sur ce que vous évoquiez, sur le transport, sur la fiche de route, que ce soit pas débile comme tu disais, le simple fait de ça, c'est déjà avoir une attention, et le simple fait d'en parler à un tourneur ou en tout cas aux organisations, c'est déjà avoir une attention, hein. C'est pas si anodin que ça en fait, hein.
Vous faites ça comme si c'était anodin, mais ça
ne l'est pas, hein.
Bah parce que c'est très actuel comme sujet, ça touche beaucoup aussi, alors il y a nous, mais il y a aussi tous nos autres collègues, alors je sais pas les autres endroits de France, mais dans la région toulousaine, je sais qu'on est très conscient de ça, et c'est quelque chose qui nous tient à cœur, vraiment, de faire attention du nombre de kilomètres parcourus, comment, pourquoi, dans quel but. Et oui, ça fait partie maintenant de quelque chose d'assez, tu parlais de quelque chose d'anodin. Pour nous, oui, effectivement, ça devrait être normal de penser à ça et d'avoir cette considération-là quand on part en tournée, quand on part en concert, et des messages qu'on a véhiculés, parce que c'est dans les actes finalement qu'on voit ce qui se passe, tout simplement, quoi.
Après, tu vois, pour revenir sur le côté militant, même si je pense qu'on a fait à peu près le tour, quand on a écrit cet album, il y avait Dune 2 qui venait de sortir au cinéma. C'est ce qui a aussi inspiré beaucoup notre histoire, le lore, le sable et tout. En fait, c'est un truc idiot parce qu'on a quand même tous à peu près 30 ans maintenant, mais moi je suis sorti de ce film en me rendant compte que le cinéma, l'art, les histoires, les romans, les concept albums, comme ce qu'on a essayé de faire, en fait pouvaient être divertissants, super divertissants pour la majorité des gens qui voulaient en rester à ce stade-là. mais qu'en fait derrière il y avait des choses vachement plus ancrées dans le réel, il y avait des messages. Quand tu regardes une 2 avec un peu de recul, ce qui se passe, ce qui est dit dedans, ce qui est montré, c'est hyper actuel. Et en fait je m'étais jamais trop rendu compte de ça en regardant des films de science-fiction ou autre, tu vois, en me disant attends, mais qu'est-ce qu'il a essayé de dire là, qu'est-ce qu'on raconte, est-ce que c'est juste une œuvre fictive, est-ce qu'il y a un truc derrière. Et ça, ça nous a fait nous rendre compte en fait qu'on pouvait faire de la musique, faire un truc cool, raconter une histoire un petit peu what the fuck, qui fasse sourire certains, qui en fasse vraiment kiffer d'autres, mais pour autant quand même raconter un message. Et si tu veux, en mon sens, ça c'est quand même aussi une forme de militantisme, quoi, tu vois.
Tout à fait. Puis on le voit bien, et je me permets juste de voir, parce que j'avais vu moi le Dune avec Sting à l'époque des années 90, et quand on voit la question, ben ouais, non, mais c'est quand on voit comment c'est est traitée la question dans les années 90 et actuellement, on voit bien qu'il y a toute une façon de traiter ces questions, et notamment autour des ressources, autour du partage des ressources.
Absolument.
Qui est totalement différente des années 90, où c'était déjà un bon film hein, dans les années 90, la première version de Dune. Pardon, je voulais juste compléter avec ça.
C'est surtout un super auteur. Hein, de...
Oui, tout à fait. Oui, bah, le roman est juste génial.
Le roman est extra.
Il faut le lire et le relire.
Tout à fait. Merci beaucoup à vous. J'ai débordé du petit papier qu'on m'avait donné. On m'a dit qu'il faut absolument libérer à 35. Il est 38. Toutes mes confuses.
Merci beaucoup pour l'accueil. On a été accueillis comme des champions. C'était très bien.
Merci beaucoup à vous. On écoute un morceau. Je choisis arbitrairement The Island of Gods. Sauf si vous m'en empêchez.
Ah oui,
c'est très bien.
Mais un morceau du dernier album. Si tu en as un sous la main, bien sûr.
J'ai Predator, sinon.
Oui, c'est très bien.
Exactement.
C'est encore mieux, c'est ça.
C'est encore mieux.
Eh ben, on y va.
Ça part sur Predator. Let's go.
Badang avec le morceau Predator. principe actif. Une rediff. Padang avec le morceau Predator, issu de ce deuxième et dernier album en date pour le moment.
Le cas condamne.
C'est ça que je voulais, c'est pas ça, je voulais ce jingle-là.
Vous n'avez plus qu'une chose à faire, branchez-vous 102.4 FM, Radio
Principe Actif.
Ah, ça a été découpé au ciseau et collé avec du scotch sur un jingle d'une autre radio. Voilà. Les agités du bocal sont avec nous tout à l'heure quand on s'installait juste avant de commencer l'émission. Ils m'ont glissé à l'oreille. De toute façon, à cette heure-là, il n'y a plus grand-chose d'intéressant à dire. Il y a beaucoup de conneries et a priori, ça leur va plutôt bien.
Non, mais parce qu'on a dit toutes les choses intelligentes pendant le concert qui a eu lieu juste avant.
C'est bon, ça, je précise quand même.
Que... Bonsoir. Poli.
Oh zut. C'est moi, je vous pousse.
On en dit beaucoup des bêtises. Hein.
Que de fiefs et coquins autour de cette table.
On va se contenir.
Très bien. C'est vous qui décidez et ce sera de votre responsabilité de vous être contenu. Les agités du bocal, c'est un groupe de rock qui a l'humour haut placé. Ils nous racontent et ils nous décrivent le monde dans lequel ils vivent du mieux qu'ils le voient. C'est à peu près comme ça que j'aurais envie de vous définir, la dent un peu dure régulièrement et en tout cas l'esprit grinçant. C'est comme ça que vous fabriquez vos musiques.
Ouais, alors il a tout dit. Mais comment tu
qu'est-ce qu'il est bien fait le presbyte.
Ah non, ça c'est moi qui le dis.
C'est vrai. Mais d'ailleurs, j'aime bien. Humour haut placé, ça.
C'est
sympa.
C'est mignon. La dent dure, en vrai, non. On cultive le lancer de crotte de nez.
Oui. C'est pas la dent dure, c'est la crotte de nez. C'est la crotte de nez collante, quoi.
C'est la taquinerie.
Voilà, exact. On taquine un petit peu. Mais en vrai, on en veut à personne pour pas grand chose, hein.
On en veut à personne pour pas grand chose.
22h, hein.
Ouais, on en veut à personne pour pas grand chose. L'adjectif, vous en aurez. Ça va être adjectivé cette interview. Non, qu'est-ce qui vient chercher justement ce lancer de crotte de nez ou cet élément piquant ou ce regard un peu qui vient taquiner. Qu'est-ce qui déclenche ça,
Léonard? Alors, qu'est-ce qui fait de vous un être aussi taquin?
Mais non, arrête. Non. Alors, nous sommes deux à écrire les chansons avec Thibaut ici présent et c'est vrai que on a deux manières d'écrire peut-être un tout petit peu différentes, mais en même temps on se rejoint toujours sur le côté chansons en française qui se veulent toujours avec un fond un peu rigolo ou à minima décalé, voilà. Et forcément, force est de constater que quand on essaie d'écrire sur ce qui se passe dans notre siècle, dans notre société actuelle, etc., il y a quand même pas mal de choses où, sans même forcément avoir envie d'en rire, qui nous paraissent un peu absurdes, un peu abscons, un peu folles en fait. Et donc des fois, on appuie juste à un endroit et on se dit là, il y a un truc à creuser, il y a déjà tout décrit quoi. Non mais c'est un peu fou, mais on n'a pas forcément l'impression d'être plus cynique que le monde dans lequel on vit.
Oh, qu'est-ce que c'est bien dit.
La réalité dépasse la fiction, quoi.
La réalité dépasse la fiction. C'est vrai qu'il y a des fois on écrit des vannes et 2-3 ans plus tard c'est plus des vannes parce que ça s'est vraiment passé.
Et ça c'est triste.
Non, ça va. Justement, ça pourrait énerver plutôt que d'avoir envie d'en rire. Enfin, on les entend là derrière. C'est Head Charger là.
Non, ils ont des choses à dire.
C'est Mugslug.
Non, là c'est Charger qui a commencé, je pense.
Ah ouais, c'est bagarre. Hein. Ouais. Sont les mecs. Hein.
Là, on sent qu'ils sont énervés. Ils nous l'ont dit en interview. Il y a une colère à exprimer.
Moi, je parle très bien anglais. Je parle très mal anglais, mais ça se fait. Ils disent je t'aime dans des langues qu'on connaît pas. Hein.
Non. Alors ils nous l'ont confié. Ils nous l'ont confié à micro. C'est que ça vient quand même d'une colère.
Oui, d'accord.
Ça vient quand même d'une colère. Pas de la colère amoureuse.
Non.
La colère pure et dure. Okay. Non, mais on peut prendre le pied de l'énervement, de l'agacement, effectivement, sur les petites choses de la vie. Vous avez décidé de prendre le pied de s'en marrer, quoi.
J'imagine que
c'est pour pas s'en foutre.
Un sentiment assez similaire, mais effectivement.
Qui se traduit autrement.
Exprimé autrement.
Ça, finalement. Carrément. En fait, les gens sont, à mon avis, plus à même de recevoir une info ou un avis si le truc est un petit peu ludique, un peu marrant, alors que si tu y vas en mode ça aise, quand bien même respect, y a un moment où peut-être les gens ils vont déjà pas forcément tout le temps hyper bien à tout moment de la journée. C'est pas pour qu'on leur dise le monde est pourri, oh yeah.
Oui, puis je pense que de toute façon en gros il y a une infinité d'angles d'attaque pour parler d'un même sujet ou d'une même chanson, et donc je pense qu'il y a plein d'autres groupes, enfin de poètes, d'artistes qui font ça très très bien avec je sais pas, des revendications, même juste jusqu'au militantisme ou quoi que ce soit. Bah nous on a pris le parti d'en rire entre guillemets, mais c'est pas pour autant qu'il y a pas de fond en fait, mais c'est juste une autre manière de dire les choses.
Voilà.
Tout à fait. Mais on... l'humour a une force de, un pouvoir énorme hein. Enfin oui. L'humour est un pouvoir.
L'humour et puis est salvateur aussi je pense, autant pour nous que pour les gens en face.
Il ne faut pas mésestimer cette dimension là aussi dans l'humour.
C'est un super vecteur d'idées l'humour.
Ouais.
Là je vais être carrément un ouf là, on en parlait pas plus tard que ce midi sur des questions féministes, notamment avec Hélène Francis. Oh là là, là ça fait France Culture. Là je vous assure, mais c'était totalement le fond du propos de l'émission de ce midi avec Nadège Catelino également et Hélène Francis. C'est vraiment du France Culture là. Là on est en plein dedans. Hein. Une émission à retrouver en podcast, bien entendu, hein, Scène de vie, vite scène, qui nous disait qu'en fait on peut aller beaucoup plus loin. C'est une arme ultra puissante, l'humour. En fait, c'est bien plus destructeur qu'un discours frontal, quoi. Il y a cette envie aussi d'aller un petit peu politiser le propos à travers l'humour.
Je sais pas si c'est politique, mais en tout cas, on se fait plaisir en transgressant un peu la réalité. C'est-à-dire que, vu que l'humour, c'est le fait de changer le contexte d'un élément et de pousser les curseurs trop loin, c'est ce qui crée le décalage, quoi. Bah, du coup, d'une certaine façon, on sort un peu de la réalité, ce qui nous permet de raconter vraiment ce qu'on veut. Après, c'est notre responsabilité, si on se dit qu'on va très loin dans une bêtise, que cette bêtise, elle soit lisible. Parce que tu peux dire un truc qui n'a aucun sens, et la personne en face, elle va peut-être en rire, mais elle va pas forcément en tirer quelque chose. Nous, quand on essaye de donner une info, que ce soit via un truc extrêmement stupide, ou quelque chose qu'on essaye de rendre un petit peu plus contenu, on veut lui donner une stature, dans tous les cas, l'idée c'est que le message qu'on voulait donner à la base soit perceptible par le plus grand nombre. Après, bien sûr, les gens se font la lecture qu'ils veulent.
Oui, on essaye d'éviter les malentendus le plus possible.
Mais du coup, oui, c'est une super arme, et en même temps, ça dépend comment tu le fais. C'est un peu casse-gueule aussi, quoi.
Bah, c'est ultra casse-gueule. Hein,
Et puis, de toute façon, l'idée n'a jamais été dans le groupe d'écrire des chansons pour dire aux gens quoi faire ou quoi penser. Bien, nous, on a forcément des avis sur le monde qui nous entoure. On met forcément aussi, d'une certaine manière, de nous dans les chansons qu'on écrit, bien sûr. Mais vraiment, voilà, on n'est pas là pour dire aux gens quoi faire, quoi penser, faire des actes militants ou non. Enfin, voilà, on peut le faire à titre individuel ou quoi que ce soit, mais on n'est vraiment pas là pour. Dire aux gens quoi faire. Désolé, je l'ai dit trois fois, mais c'est important.
Ah, oui.
Voilà, de toute façon, partir du moment où on prend la parole sur scène et qu'on dit des choses, même si c'est des blagues, c'est difficile qu'il n'y ait pas un côté politique derrière. On est là, on fait un discours concrètement, mais après, l'idée c'est nous, on présente nos chansons, on essaie de passer un bon moment tous ensemble, et effectivement, il y a des chansons qui ont plus de fond que d'autres, et j'espère qu'au global, de toute façon, on passe un bon moment avec tout le monde, et c'est ça qu'on retient en fait.
De toute façon, passer un bon moment, c'est politique.
Voilà.
Et bien, bienveillance, ça dépend, c'est politique.
C'est vrai.
Ça dépend avec qui, effectivement, le bon
vrai.
Moment. Ah non, mais c'est en partage, comme fait, ça, c'est politique, effectivement.
Les agités du vocal, c'est aussi la musique, le texte, l'humour, mais c'est aussi une sacrée présence sur scène, là. Je vous ai vu, quand même, pendant mes allers-retours nombreux pour aller chercher les artistes. Voilà. C'est aussi quelque chose qui se travaille, parce que moi je trouve qu'il y avait une dimension de la prise en charge de l'espace, de la scène, du plateau, d'aller chercher le public, enfin voilà, vous êtes aussi un groupe.
Merci beaucoup déjà, ça fait très plaisir.
Vous êtes aussi un groupe où moi j'ai senti cette dimension là, quoi.
Ça fait
de l'humour, mais ça reste pas seulement caché derrière son humour. Il y a une incarnation
plaisir.
Dans le corps, il se passe quelque chose.
Et ça fait d'autant plus plaisir que c'est quelque chose qu'on a envie de travailler beaucoup et qu'on prend le temps, du moins on essaye avec le temps qu'on a. Et c'est quelque chose qui est tout aussi intéressant à travailler que les chansons mêmes et la pure technicalité musicale. Donc oui, ça fait très plaisir que ce soit remarqué.
Ça touche, ça y est, carrément, c'est un message.
Merci beaucoup. C'est vrai que nous on envisage aussi nos concerts comme des spectacles spectacle concrètement, ce qui n'est pas forcément ni le cas ni une obligation pour d'autres groupes. Enfin, il y a pas de souci. Mais c'est vrai que pour nous, c'est important d'avoir ce côté, bah voilà, d'avoir des interchansons, racontant des trucs un peu rigolos, d'avoir des moments dans les chansons où on peut emmener les gens faire des choses un peu particulières et tout ça. Alors juste des trucs festifs, mais voilà, d'avoir des moments comme ça un peu privilégiés avec le public, c'est un truc qu'on cultive depuis nos débuts parce que je pense que ça nous ressemble. Et faut être honnête, ça, c'est un plaisir fou de dire à un public on va chanter ça, faire ci, et puis que tout le monde te suit, et c'est trop plaisant. Et évidemment, ça colle bien avec notre style aussi, donc on en profite. C'est un plaisir partagé, je pense, donc ouais, c'est plus facile encore.
Non, mais tout le monde n'y arrivait pas hein, dans aller chercher public, c'est un risque. Hein.
Ah bah,
c'est
un risque à prendre. On a une immense chance, c'est qu'on possède un Léonard.
Voilà.
Ouais. Léonard, le chanteur, voilà, chanteur guitariste.
On en vient à Léonard.
C'est-à-dire qu'il est, devant au centre, à lui tout seul, il peut soulever à peu près n'importe quelle foule.
Mais pas avec les bras.
Vraiment. Pas avec les bras. Non, il a pas des si gros bras que ça.
C'est
mais par contre, il a une grande
c'est
voix.
Sa puissance mentale.
Et du coup, en tant que musicien, c'est un plaisir parce que du coup, nous, notre boulot, ça va être de faire en sorte qu'il y ait une sorte d'écrin musical et on va créer une dynamique de concert. Mais en fait, si on fait notre boulot, bah c'est juste qu'on facilite celui de Léo.
Tout à fait.
Et donc même si voilà, c'est très gentil d'avoir remarqué qu'on fait des mouvements parce que ça on l'a travaillé. Ah, mais même au premier concert des Agités, c'était sûrement beaucoup moins beaucoup moins perceptible, beaucoup plus statique. Mais il y avait quand même un zigoto au milieu qui était en mode est-ce que ça va ce soir.
J'adore crier.
Et c'est ça qui est, c'est ça qui crée aussi quand même une partie de l'échange quoi.
Les Agités du vocal, je suis désolé de vous le dire, mais on a raté notre mission. On avait dit qu'on dirait rien d'intéressant parce que c'était plus l'heure.
Des conneries. Mais il faut qu'on se rattrape tout de suite.
Ben voilà, c'est ça. Alors, à moins qu'il y ait un bon calembour, une blague.
Plus à cette heure-là. Les calembours, c'est intelligent.
Mince. Bon, bah alors.
Le calembour, c'est politique.
Non.
Attention. Et ben voilà, on aura raté notre mission, tant pis pour les auditeurs. On aurait été intéressant et tant pis pour eux. Je vous promets qu'on se rattrapera.
C'est fini, je pense.
Je vous promets qu'on se rattrapera un jour où on sera inintéressant pendant longtemps. C'est promis, ça nous arrivera et peut-être même sans faire exprès.
Avec plaisir.
Avec plaisir. Voilà. Merci à vous.
Plaisir partagé.
Merci.
Joie de recevoir. Voilà. Les Agités du bocal. Et ben, on va terminer avec un titre super ordinaire.
Ah, avec grand plaisir.
C'est cool.
Merci beaucoup.
Pour l'accueil, c'est trop cool.
Merci. Au revoir, merci.
Des bisous.
On est tous des héros du quotidien. Peut-être qu'on ne change pas l'eau en vin. Mais moi je sais la changer en café. Avec un seul doigt et même pas réveillé. La vie c'est trop phénoménal. On peut faire ce qu'on veut, même être banal. Quand je pense qu'on aurait pu devenir des voyous et arborer fièrement le même look que Garou. On s'en sort bien, même si on n'est jamais passé sur TF1. Moi je m'en contente, c'est pas plus mal. En tout cas que de passer dans la presse à scandale.